France Info.
Soirée, la nuit prochaine, le sud et les Alpes en donnant pas mal de neige. De part et d'autre, on aura un ciel nuageux. Alors les éclaircies reviennent quand même à l'arrière. Elles seront très belles sur la pointe de la Bretagne qui est toujours en première ligne. Toujours un temps d'avance sur la Bretagne. Ça sera ce temps très ensoleillé que nous aurons demain. Et vendredi, nous aurons une perturbation droite comme un I. Elle arrivera entre la Bretagne et les Pyrénées, là, sur toute la façade atlantique. Et elle va circuler sur le pays en restant droite comme un I jusqu'aux Alpes en apportant de nouveau de la neige.
Dites-moi, droite comme un i, une virgule, c'est une météo très littéraire ce matin, Christine Peignard. On vous retrouvera, ça sera peut-être plus mathématique dans 10 minutes après le journal de 5h. Merci à tous d'être avec nous sur France Info. Il est donc 5h. Et à la une donc de ce 11 mars, une évasion a-t-elle été évitée à la prison ultra-sécurisée des narcos de Vendin-le-Vieil ? Plusieurs personnes sont interrogées en ce moment, un avocat est même soupçonné d'être potentiellement un complice. À la une également, la guerre au Moyen-Orient, les États-Unis avaient promis hier la journée la plus dure, vous entendrez, des Iraniens qui vivent au rythme des bombes. En Suisse, 6 personnes sont mortes dans l'incendie d'un bus, semble-t-il volontaire. Et puis le restaurant parisien triple étoilé Michelin depuis le plus longtemps, eh bien perd un de ses macarons. 42 personnes sont dans les bureaux des gendarmes, 42 personnes interpellées, soupçonnées d'appartenir à la DZ Mafia, le groupe criminel marseillais. Cette opération Octopus des forces de l'ordre a été annoncée hier et voilà une affaire dans l'affaire. Des policiers ont mis à jour un projet d'évasion d'un des 3 principaux chefs présumés de cette DZ Mafia et son avocat est suspecté également, Pierre de Cossette.
Pour les policiers marseillais, Gabi, comme il est surnommé, est tout sauf un inconnu. L'été dernier, il a été transféré à la prison ultra sécurisée de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Mais rapidement, une drôle d'habitude a été détectée en cellule, celle d'appeler son avocat au téléphone en pleine nuit. Suffisamment étrange pour que les policiers creusent et s'aperçoivent que l'avocat en question renvoyait automatiquement l'appel vers des proches du détenu. En mettant la ligne sur écoute, les enquêteurs ont acquis la conviction il y a quelques semaines qu'un projet d'évasion se tramait. Quand ? Rien d'établi. Sauf que depuis quelques jours, Gabriel O, considéré comme l'un des éminents chefs de la DZ Mafia, a quitté Vendin-le-Vieil pour une prison du sud-est de la France en attendant son procès aux assises d'Aix-en-Provence dans 2 semaines dans une affaire de double assassinat. D'où l'interpellation en urgence avant-hier de 4 possibles complices. Le détenu et son avocat, eux, sont déjà en garde à vue dans l'autre dossier du moment qui vise le fonctionnement de la DZ Mafia.
Et les précisions de Pierre de Cossette sur France Info. L'Iran continue de répliquer. Sur tout le Moyen-Orient ce matin, les gardiens de la Révolution disent avoir ciblé une base américaine au Koweït. Des missiles ont aussi été tirés vers Israël, vers l'Arabie Saoudite, vers les Émirats Arabes Unis également, sans bilan pour le moment. Tout cela est une réplique aux frappes israélo-américaines qui se poursuivent. Le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, promettait pour hier le jour le plus intense de frappes depuis le début du conflit. Elles ont en tout cas été très nombreuses, Eric Biegala, avec des objectifs d'ailleurs différents entre les Américains et les Israéliens.
Oui, dans un premier temps, les Américains ont bombardé au missile et donc à distance tout ce qui ressemblait à un objectif fixe. Ils passent dorénavant à des frappes visant certains objectifs renforcés en utilisant plus largement l'aviation. Cela veut dire des bombardements lourds, mais pour cela, il va falloir s'aventurer au-dessus du territoire et nul ne semble connaître exactement les ressources antiaériennes mobiles des Iraniens. Celles-ci ont déjà abattu une dizaine de drones d'attaque américains. Côté israélien, cela semble un petit peu mieux rodé. Les Israéliens semblent avoir réduit au silence toute défense antiaérienne dans le nord-ouest de l'Iran. Ils s'attaquent dorénavant aussi aux infrastructures civiles de sécurité, commissariats, casernes des Basiji ou des gardiens de la Révolution, et annonçaient hier soir avoir réduit à néant toutes celles-ci dans la province d'Ilam, mitoyenne de l'Irak. Peut-être pour permettre une offensive au sol depuis l'Irak, ou pour aider à une révolution populaire en Iran qui pour le moment reste encore très hypothétique.
Merci Eric Biegala. Et face à ces bombes israéliennes et américaines, des cibles militaires évidemment, mais aussi des Iraniens qui vivent au rythme de ces frappes. Sandrine Eto'o-Handek, vous avez recueilli le témoignage d'une étudiante iranienne.
Shirin, ses parents et son jeune frère ont fini par quitter leur domicile de Téhéran pour se réfugier chez un oncle et s'éloigner des bombardements incessants de jour comme de nuit.
À chaque fois qu'on entend une explosion, on est traversé par une vague d'espoir mêlée de peur, car on ne sait pas si ce qu'on entend, c'est une frappe sur un immeuble ou une bombe qui explose.
La télévision est allumée en permanence, les journaux d'État se concentrent sur les pertes humaines.
Des écoles, des hôpitaux, plusieurs zones résidentielles, des aéroports. Un stade ont été détruits. Dans ma ville, un enfant d'un an a été tué par le souffle d'une explosion alors qu'il jouait dans un parc. J'essaie de me distraire, je joue avec les enfants pour ne pas me laisser submerger par toutes ces émotions négatives.
Depuis le début du conflit, cette militante du mouvement Femme, Vie, Liberté se fait discrète.
Ceux qui critiquent le régime sont accusés de soutenir cette guerre et de menacer la sécurité nationale. Supprimer les opposants, c'est l'une des méthodes habituelles du pouvoir islamique,
dont elle dit ne rien attendre et conclut « S'il servait à quelque chose, mon pays n'aurait pas été attaqué pour la deuxième fois en moins d'un an ».
Un témoignage recueilli par Sandrine Etoa-Andegue pour France Info. Il est 5h06, 2 mois et demi après l'incendie de Cran Montana. Un nouveau traumatisme en Suisse. Au moins 6 personnes sont mortes hier dans un bus qui s'est embrasé à une 20 kilomètres de Berne, la capitale helvétique. Un incendie potentiellement volontaire selon les enquêteurs, Jérémy Lanche.
C'est l'hypothèse privilégiée à ce stade par la police du canton de Fribourg où a eu lieu le drame. D'après un témoignage, une personne aurait utilisé un engin incendiaire pour mettre le feu au car sans que l'on sache quoi, ni même si cette personne était à bord. On dénombre par ailleurs plusieurs blessés, certains dans un état grave. L'un d'eux a dû être héliporté dans un centre pour grands brûlés. La zone où a eu lieu l'incendie est totalement bouclée. Les habitants sont priés de ne pas s'approcher des restes du bus calciné et dont les images ont circulé dans tous les médias du pays. La police a lancé un appel à témoins et ouvert une ligne téléphonique pour les familles des victimes. L'entreprise Carpostal, la plus grande entreprise de transport en commun par la route de Suisse et à qui appartient le bus, a elle mis en place une cellule de soutien psychologique.
Jérémy Lanche, le correspondant en Suisse de France Info. Une petite révolution au Royaume-Uni. Les pères héréditaires ne pourront plus siéger à la Chambre des Lords. C'est l'équivalent du Sénat outre-Manche. Jusqu'à maintenant, une centaine de membres n'étaient pas élus, mais héritaient de leurs fonctions, des ducs, des vicomtes, des comtes qui désormais ne pourront plus voter. Du football à suivre ce soir dans la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain reçoit Chelsea pour le 8e de finale. Allez au Parc des Princes, c'est à 21h et c'est sur France Info. Un seul Français à suivre aujourd'hui aux Jeux Paralympiques de Milan-Cortina. Karl Tabouret en lice en paraski de fond pour le 10 km classique. Ce sera en fin de matinée, là aussi à suivre sur France Info. Hier, les tricolores ont remporté 3 nouvelles médailles. Le bronze pour Benjamin Davier en paraski de fond lui aussi. Et puis l'or et l'argent en paraski alpin dans le super combiné pour Aurélie Richard et Arthur Baucher. Lundi prochain, le guide Michelin dévoilera le nom des restaurants qui gagnent une étoile, dévoilera son palmarès complet, mais déjà des mauvaises nouvelles. On connaît le nom de ceux qui perdent des étoiles. Un seul restaurant passe de 3 à 2 étoiles, c'est l'Ambroisie à Paris, Victor Maté.
Une institution au cœur de la capitale, le plus ancien triple étoilé parisien, situé sur la très chic place des Vosges. La maison a changé de chef l'an dernier, Shintaro Awa, âgé de 40 ans, succédant à l'un des monstres sacrés de la cuisine française, Bernard Paco, qui avait passé 4 décennies à la tête de l'Ambroisie. Autre rétrogradation remarquée, le Suquet à Laguiole en Aveyron. Il perd sa 2e étoile, situation assez particulière puisque le chef Sébastien Brasse ne voulait plus de cette distinction. Il avait même demandé et obtenu en 2018 de ne plus figuré dans le guide Michelin avant d'y apparaître à nouveau à la surprise générale dès l'année suivante. Pour cette édition 2026, 17 restaurants perdent leur unique étoile. C'est le cas par exemple de la Mère Germaine à Châteauneuf-du-Pape dans le département du Vaucluse. À noter que plus de la moitié des déclassements sont des changements de concept, de chef ou purement et simplement des fermetures.
Merci Victor. Maté à 5h09, c'est l'heure d'une météo optimiste. petits oignons, hein, une météo étoilée, Christine Peña, même si bon, les nouvelles ne sont pas fofolles. Hein. Une journée bien perturbée nous attend.
Oui, perturbée avec ces pluies qui traversent le pays accompagnées de vent et puis cette baisse de température. Alors ce matin encore, il fait autour de 9-11 degrés. On a relativement doux pour la saison. C'est assez souvent hein, 9 à 11 degrés, un peu moins à l'intérieur du sud-ouest. C'est vrai, il fait 4 à Auch, Montauban, Périgueux, contre 10 à Montpellier, Biscarrosse, Rennes, 11 à Paris, à Lille, à Lyon. Et cet après-midi, il fera entre 11 et 15 au nord, donc ça baisse un peu. 14 dans la capitale, on a eu 17 hier après-midi. Et de 15 à 17, cette fois sur la moitié sud. Il est prévu 16 à Toulouse, à Marseille, 17 à Perpignan, Toulon et Bastia. Une pointe à 19 quand même pour Ajaccio.
Merci Christine Peña, 5h10.
France Info, première plateforme d'actualité. Source Médiamétrie Net Ratings.
Chaque jour, vous êtes 4 millions à vous informer sur franceinfo.fr et l'appli France Info.
Merci pour votre confiance.
Une info fiable et vérifiée.
France Info, première plateforme d'actualité.
À venir d'ici 5h30, France Info municipale avant le premier tour. Dimanche, focus à venir sur Édouard Philippe, le président d'Horizon, maire sortant du Havre et candidat à la présidentielle qui joue gros, très gros même. Vous entendrez aussi les candidats à la mairie de Marseille où le résultat est très incertain. On reviendra aussi sur ce feu dramatique en Suisse, 6 morts dans l'incendie d'un bus qui paraît volontaire. Mais d'abord, nous sommes au cœur de la cellule de crise du Quai d'Orsay.
France Info. 5h-6h, William Gecosta.
Cellule de crise du ministère des Affaires étrangères qui vient en aide aux Français qui sont bloqués au Moyen-Orient depuis le début de la guerre. Ils sont des milliers. Julie-Marie Lecomte, vous vous êtes rendue dans cette cellule pour France Info depuis plus de 10 jours maintenant. Le rythme d'appel est effréné et au bout du fil, ceux qui répondent doivent gérer l'inquiétude et parfois même l'impatience des ressortissants français.
Des touristes toujours bloqués, des expatriés qui veulent rentrer entre Nantes et Paris. Plus de 12 000 appels ont été traités depuis le début du conflit.
Centre de crise et de soutien, bonjour.
Cela fait aujourd'hui 12 jours que ces Français se démènent pour partir.
Dans quel pays vous trouvez-vous ?
Vous trouvez aux Émirats. D'accord. Alors en ce moment, il n'y a pas de vol de rapatriement qui est proposé. Les vols commerciaux ont repris depuis dimanche.
7 vols spéciaux seront bientôt affrétés, a annoncé le ministre des Affaires étrangères, mais réservés aux personnes malades ou vulnérables, tant d'expliquer Laura, installée dans l'un des 8 petits box bleus, micro-casque sur la tête.
Parfois, on leur propose des solutions qu'ils n'ont pas forcément envie d'entendre. Les personnes attendent encore des rapatriements qui ne sont pas forcément faits dans toutes les situations.
Il faut expliquer aux gens que les rapatriements sont réservés à des cas très particuliers.
Oui, et puis il n'y a pas toujours des rapatriements si la situation permet que les espaces aériens restent ouverts.
La jeune femme a sous les yeux un livret de 32 pages avec des éléments de réponse réactualisés tous les matins.
C'est des gens qui sont dans des situations compliquées. On sait que voilà, dans leur situation, on aurait aussi toutes ces émotions-là. Et eux, ça leur fait du bien aussi de pouvoir extérioriser.
On a rentré toutes les informations vous concernant. Il n'y a pas d'autres problématiques que je pourrais inscrire concernant notamment votre état de santé.
Les tensions dans le box d'en face, Fleur tente de les désamorcer avec douceur.
Il y a des gens aussi qui nous appellent et ils disent « ça fait 6 fois que j'appelle cette semaine ». C'est vrai que pour eux, ça peut paraître long. Puis il y a des gens qui comparent par exemple avec la réponse d'autres pays qui peut-être parfois est plus efficace, enfin on leur semble en tout cas plus efficace. Sur le moment, à part transmettre l'information, on ne peut pas nous les mettre sur des vols. On fait de notre mieux, en tout cas ici, pour aider les gens et les recenser.
D'accord, on a bien noté tout ça. Au revoir, bon courage.
À Nantes, ils sont une 60aine à s'être portés volontaires pour rejoindre à tour de rôle la cellule de crise, loin de leurs missions habituelles. Selon le Quai d'Orsay, 7500 demandes d'évacuation ont ainsi pu être répertoriées.
France Info reportage à la cellule de crise du Quai d'Orsay, signé Julie-Marie Lecomte.
France Info, municipale 2026.
On le rappelle, nous votons dimanche pour ces municipales pour le premier tour parmi les villes, les grandes villes qu'il faudra surveiller. Marseille, Lyon, nous y serons dans un instant. D'abord, nous sommes au Havre. Bonjour Aurélie Herbemont.
Bonjour à tous.
Le Havre, la ville d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, président du parti Horizon, qui joue beaucoup lors de ce scrutin. Dans cette dernière ligne droite, d'ailleurs, tous les jours, on s'intéresse à toutes les formations politiques qui sont engagées dans ce scrutin. Aujourd'hui, c'est donc Horizon, Édouard Philippe, qui est en meeting ce soir. Donc, au Havre, des municipales cruciales pour sa candidature à la présidentielle.
Oui, car Édouard Philippe remet son mandat de maire du Havre en jeu et le dit, en cas de défaite, je ne serai pas en bonne position pour essayer de convaincre les Français. En clair, le Havre, c'est quitte ou double. Sauf qu'un sondage a donné l'ancien Premier ministre battu par son adversaire communiste. Le sondage va le sauver, veut croire un ministre, ça va remobiliser ses électeurs. Ses lieutenants font même de cette bataille pas gagnée d'avance un atout pour la suite. Édouard aurait pu se planquer, c'est le seul présidentiable tête de liste, disent-ils. La victoire sera serrée et n'en sera que plus belle, si ça se finit bien, évidemment.
Autre ville qui préoccupe Horizon, Aurélie, Nice.
Perdre Nice ne serait pas une bonne nouvelle pour le parti, avoue un dirigeant. Christian Estrosi mène une bataille compliquée face à Éric Ciotti. Christian Estrosi est le président de l'Assemblée des maires Horizon. Sa défaite ferait mauvais genre dans un parti qui s'autoproclame celui des maires avec 600 communes dans son escarcelle.
Et puis il y a le cas de Paris.
Un caillou dans notre chaussure, reconnaît un cadre du parti. Le candidat Horizon, Pierre-Yves Bournazel, martèle qu'il ne ralliera pas Rachida Dati au second tour, poussant Édouard Philippe à un recadrage en règle en faveur de l'alternance à Paris. Lui qui espère être le candidat de la droite et du centre en 2027, sans LR sur sa route. Faire perdre Rachida Dati ne serait pas le meilleur moyen de s'attirer les bonnes grâces de son ancien parti. Certains élus Horizon avouent même espérer que Pierre-Yves Bournazel échoue sous la barre des 10%, histoire que la question de son maintien au second tour soit réglée d'office. Horizon n'a qu'un objectif, rappelle un dirigeant sans pitié, c'est Édouard Philippe 2027.
Merci beaucoup Aurélie Herbemont, vous évoquiez la première ville de France, Paris, nous sommes désormais dans la deuxième, Marseille, avec une question, le Rassemblement National peut-il l'emporter? Les récents sondages montrent une poussée du parti d'extrême droite. Le candidat RN Franck Alizio est donné au coude à coude avec Benoît Payan, le maire sortant d'hiver gauche, et une quadrangulaire se profile peut-être. Et le Rassemblement National, Mathilde Vinceneux, pourrait profiter d'une gauche divisée et d'une droite qui se délite.
Sur ce marché près du stade Vélodrome, le candidat Rassemblement National, Franck Alizio, semble en terrain conquis.
Bonjour, là.
Dans ce quartier aisé de Marseille, longtemps fief de la droite traditionnelle, le député RN, ancien sarkozyste, compte sur le glissement des électeurs Les Républicains, bien conscient que la bataille de Marseille est scrutée à un an de l'élection présidentielle.
Vous avez vu l'accueil, voilà. Et en effet, c'était un fief qui, là, doit complètement rallier, mais massivement. Puis il y a un vote utile. Il y a comment on fait pour battre la gauche et l'extrême gauche. La liste, c'est la nôtre, celle qui peut battre la gauche. C'est vrai que quelque part, les Marseillais vont avoir dans les mains, et c'est rare, non seulement l'avenir de leur ville, mais peut-être l'avenir de leur pays, parce qu'ils vont envoyer un signal fort.
Mais il ne faut pas confondre les scrutins, rétorque Martine Vassal. La candidate de la droite et du centre peine à peser dans la campagne, surtout depuis qu'elle a repris la devise pétainiste lors d'un débat télé. Alors elle mise sur le pragmatisme pour se différencier du RN.
Quand M. Alizio nous dit qu'il va faire un pass anti-racaille, c'est-à-dire qu'il va sélectionner les gens sur les plages et dans les jardins, c'est pas réalisable. Moi, je suis dans le faire. Et donc, mon programme, il est réalisable. M. Alizio, de toute façon, il aura un plafond de verre. Jamais il ne sera maire de Marseille.
Faire croire en la victoire du RN, c'est un leurre pour donner des voix à la gauche, dit Martine Vassal, mais pour le maire sortant d'hiver gauche, le risque est bien réel, Benoît Payan.
On est dans le plus grand combat municipal contre l'extrême droite qu'on ait connu en France depuis l'après-guerre. C'est presque un choix de civilisation que les Marseillais vont devoir faire.
Alors pour l'emporter, l'ancien socialiste défend son bilan.
En un demi-mandat, nous avons construit plus d'écoles que mes prédécesseurs en 25 ans.
Mais le maire sortant peut-il gagner seul? À Marseille, des voix s'élèvent pour réclamer l'union de toute la gauche contre l'extrême droite. Benoît Payan, lui, refuse pour l'instant de s'allier avec l'insoumis Sébastien Delogu.
S'il s'était désolidarisé de Jean-Luc Mélenchon, s'il n'avait pas tenu les propos ignobles qu'il a tenus à peu près sur tout le monde, mais particulièrement sur moi, on n'en serait pas là. Moi, ça m'est arrivé d'être troisième, quatrième. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis retiré.
Se retirer, pas question pour Sébastien Delogu. Le candidat LFI, député des quartiers nord, espère créer la surprise grâce aux voix des classes populaires.
Payan n'aura pas le choix que de discuter avec la France insoumise, et je l'appelle à la raison, des listes qui fusionnent, mais pas qui se retirent.
Si le match est serré à Marseille entre la gauche et le RN, l'insoumis Sébastien Delogu et la candidate de la droite et du centre, Martine Vassal, seront en position d'arbitre.
France Info, reportage à Marseille, signé Mathilde Vinceneux. Et puis puis vous retrouvez sur franceinfo.fr la liste complète des candidats à Marseille ou dans votre commune avec un moteur de recherche. Et puis, rappelons-le, dimanche à partir de 20h, vous pourrez suivre tous les résultats de ces municipales en direct sur France Info. Dans un instant, la Suisse endeuillée, 6 personnes au moins sont mortes dans l'incendie d'un bus, ce qui réveille évidemment dans le pays le douloureux souvenir de Cran Montana.
France Info, 5h-6h.
Bonjour Philippine Thibaudot.
Bonjour William.
À 5h20, c'est l'heure de l'info en une minute avec vous et à la une. Une opération d'envergure menée contre la DZ Mafia.
42 personnes interpellées par les gendarmes, placées en garde à vue. Des suspects tous considérés comme membres de ce groupe criminel marseillais, dont certains qui ont potentiellement préparé un projet d'évasion d'un de leurs chefs en prison. En Suisse, un important incendie dans un autocar a fait au moins 6 morts. La piste d'un acte volontaire est privilégiée. Une assistance téléphonique et une enquête sont ouvertes. 12e jour de la guerre au Moyen-Orient et les frappes qui se poursuivent. Un porte-conteneur endommagé par un projectile inconnu au large des Émirats arabes unis, selon l'agence maritime britannique. Les gardiens de la Révolution disent avoir ciblé une base américaine au Koweït. Des vagues de frappes aussi vers l'Iran, annoncées par Israël. Une guerre qui fait craindre une flambée des prix du pétrole. Réunie hier, l'Agence internationale de l'énergie propose un recours d'une ampleur sans précédent aux réserves stratégiques. Le G7 se réunit aujourd'hui à Paris sur le sujet. Et puis PSG-Liverpool, c'est l'affiche ce soir en 8e de finale aller de la Ligue des champions de foot. Ça se passe à 21h au Parc des Princes.
France Info.
Vous en parlez, Philippine. La piste volontaire est privilégiée en Suisse après un nouvel incendie. Hier soir, un car s'est embrasé dans la région de Fribourg et au moins 6 personnes sont mortes au dernier bilan. Et il pourrait encore évoluer selon Lauriane Schott, la rédactrice en chef de Radio Fribourg, qui a suivi une conférence de presse des autorités hier soir, car ce car, il a été entièrement détruit par les flammes.
Les images qu'on peut voir circuler sur les différents réseaux sociaux sont assez impressionnantes. Mais quand on s'est rendu au centre-ville de cette commune de 5500 habitants, on ne peut pas voir grand-chose parce qu'il y a des bâches qui protègent justement le car qui est complètement détruit par les flammes. Et puis, il a fallu aussi beaucoup de prudence de la part de la police cantonale pour nous expliquer ce qui s'est passé. Parce que pour l'instant, il y a énormément de flou autour de l'origine de ces flammes. Alors certains se questionnaient sur un acte volontaire. La police, en l'occurrence, privilégie cette piste, mais ne veut pas non plus trop s'avancer. Donc il y a encore pas mal de flou autour de cet incendie.
On vous dit une cause humaine privilégiée par la police, c'est-à-dire ?
Elle ne donne pas forcément d'explication très précise sur cette cause humaine. Elle parle d'un acte volontaire. En tout cas, c'est très plausible selon elle. Quand on l'a questionnée sur qu'est-ce qu'elle entend concrètement, elle n'a pas voulu nous donner de détails, mais a priori, ce serait une personne qui serait rentrée dans le bus et qui aurait, d'une manière ou d'une autre, mis le feu au véhicule. Donc, elle marche quand même sur des œufs par rapport à cette origine humaine. C'est en tout cas la piste qui est privilégiée, mais il y a une enquête qui est en cours pour déterminer cette origine.
C'était un quart d'une ligne régulière. Est-ce qu'on en sait plus à ce sujet ?
Oui, alors c'était une ligne régulière qui reliait plusieurs fois par jour deux localités. Là, pareil, il y a encore beaucoup de flou par rapport au nombre de personnes qui circulaient dans ce car. La police n'a pas encore toutes les informations. Mais oui, c'est simplement un bus, un autocar qui transporte des personnes d'un point A à un point B. Une ligne tout à fait banale, quotidienne.
Oui, on ne sait pas combien il y avait de passagers précisément,
non.
Forcément, à l'intérieur.
Non. On ne sait pas, et puis les personnes, les victimes ne sont pas non plus identifiées pour l'instant. Donc là, on est vraiment à quelques heures après l'incendie, et c'est vrai que les autorités n'ont pas encore d'informations.
Lauriane Schott, la rédactrice en chef de Radio Fribourg, qui répondait sur France Info. À Julien Langlais, il est 5h23 et c'est l'heure du Monde d'Élodie.
Bonjour Christiane Ariely.
Bonjour.
Vous êtes cette actrice brésilo-italienne d'expression française qui a découvert le théâtre pour apprendre le français, travailler votre diction et corriger votre accent sous l'impulsion, pour ne pas dire les sommations de votre maman. Vous avez été nommée 6 fois au Molière. Vous en avez obtenu un, celui de la meilleure comédienne dans un spectacle de théâtre privé pour le rôle de Blanche Dubois dans un tramway nommé Désir en 2024. Aujourd'hui, vous êtes à l'affiche du spectacle Foutue Bergerie qui jouera du 11 au 22 mars 2026 au Théâtre du Rond-Point à Paris. C'est l'histoire d'une tragédie qui s'est abattue sur une famille d'agriculteurs avec le suicide du plus jeune fils. Il a mis fin à ses jours pour soulager sa souffrance et donc une malformation de naissance due à l'utilisation des pesticides par ses parents. Jusque-là, c'est très triste. Et puis, on apprend qu'il avait effectivement comme malformation un micro-pénis et qu'il ne l'a pas supporté. Malgré sa disparition, son fantôme hante sa mère, que vous incarnez à la perfection, Christiana. C'est évidemment très drôle, mais ça raconte aussi beaucoup de choses sur les dérives des groupes chimiques et du poison qu'ils sèment dans nos vies. Est-ce que c'est cet engagement-là qui vous a intéressé dans cette pièce ?
Alors, ce qui m'a intéressé, c'est surtout le travail avec Pierre Guillois. Et quand j'ai lu cette pièce, j'ai trouvé justement que de parler de cette France qui souffre, la région des agriculteurs, des paysans, et puis tout ce drame rural qui m'a intéressée, puisqu'il le traite avec beaucoup de comédie, beaucoup d'humour. C'est-à-dire que c'est ça qui est la difficulté de la pièce, justement, c'est comment apporter tout cet humour avec des brebis. Donc, il a écrit pour des rôles de brebis, qui évidemment commentent toute cette vie dans cette ferme, mais qui sont extrêmement aussi frustrées, méchantes, parfois racistes. Elles sont un peu l'œil de la société, un peu les réactions de la société, un peu les brebis.
C'est quoi qui vous attire le plus ? C'est le fait d'être yeux dans les yeux avec le public. Au théâtre, on a pas le droit à l'erreur et surtout on est en moment de partage, en fusion totale.
Oui, cette adrénaline aussi. Se jeter un peu comme ça dans une fosse avec des gens où on peut pas se tromper, où on est obligé, c'est la concentration aussi, qu'on est obligé d'avoir systématiquement, et parfois on l'a en une seconde, hein. Je peux m'amuser dans les coulisses avec mes copains, et quand c'est à moi d'entrer, pouf, la concentration elle vient instinctivement, mais bon, je pense que c'est cette petite peur. Voilà, moi, je me sens chez moi, enfin, je suis assez confortable sur un plateau. Quand j'ai répété, quand j'ai travaillé, pas les premières, hein. Les premières, j'ai le trac, c'est violent comme tout le monde, mais j'aime beaucoup ça.
Vous vous rappelez de votre arrivée en France à l'âge de 9 ans ? Effectivement, vous avez dû tout quitter, le climat n'était pas le même plus, l'environnement non plus. Comment vous avez réagi au moment où vous êtes arrivé en France ?
On est arrivé en plein mois de novembre. Et en fait, mon père est venu avant pour trouver un appartement et nous inscrire à des écoles. Et il nous attendait à l'aéroport avec 4 manteaux bien chauds parce qu'il s'est dit, elles n'ont pas du tout ce qu'il faut, à mon avis, pour le froid qu'il fait. Je me souviens du froid et de mon père qui distribuait les manteaux comme ça parce qu'il s'est dit, bon, elles ne vont pas être assez couvertes.
On comprend d'ailleurs à quel point ce noyau familial a été très important pour vous, solide, parce que finalement, vous avez dû tout quitter, vos amis. Ça représente quoi la France pour vous, alors, Christiane Ariely, dans cette vie ?
J'aime tellement la France qu'on n'a pas envie de partir, en fait. Et quand j'ai grandi et tout ça, et que mes parents ont dit, ah, là, on va rentrer. Et j'ai dit, non, non. Je fais le cours Florent, j'ai eu la classe libre, on payait pas l'école, j'avais un petit job comme ça, et je me dis, je reste, j'ai envie de rester, on verra combien de temps, mais je reste. J'avais vraiment décidé de rester dans ma tête. Mais parce que j'adore la France, c'est comme dire ta mère et ton père, quoi. Pour le Brésil, c'est vraiment très, très ancré, même si aujourd'hui, évidemment, je vis plus au Brésil depuis très longtemps, j'ai quand même beaucoup de famille, j'y vais dès que je peux, mais je suis une Brésilienne en France quand même. Voilà, j'ai une éducation brésilienne. Avec une culture française.
Cette pièce de théâtre, l'auteur en rêvait. Écrire effectivement un drame rural était une envie qu'il couvait en lui depuis son plus jeune âge. Ça s'est prêté assez bien d'ailleurs d'inviter finalement la campagne au théâtre. Et quand on regarde bien, force est de constater, Christiana, qu'effectivement on parle rarement de la campagne dans le théâtre contemporain.
Et j'ai entendu des choses très étonnantes. On est en tournée en ce moment, donc on discute un peu avec le public et tout. Et c'est vrai que parfois on dit, est-ce que à Paris on va s'intéresser à ce sujet par exemple ? Je trouve ça incroyable de penser ça, parce que c'est pas parisien, ou c'est pas, où est-ce que ça parle. Moi, je trouve que ce spectacle, c'est de la poésie. Il a ce côté Pierre Guillois, qui est cru, un peu, parfois avec des gros mots, mais c'est de la drôlerie du texte. Mais en même temps, c'est tellement poétique. Et la ruralité, pour moi, il y a de la poésie dans ce monde-là, avec les animaux, avec leur vie, la nature et tout. Moi, je trouve ça plutôt, avec toutes les difficultés qu'ils ont, mais je trouve quand même assez poétique.
Merci beaucoup, Christiane Ariely, d'être passée dans le monde d'Élodie sur France Info. Ça s'appelle donc Foutue Bergerie, au Théâtre du Rond-Point à Paris, du 11 au 22 mars prochain. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merci à vous, Élodie Suigo. On vous réécoute sur l'application Radio France.
France Info Météo, avec CIC, la facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur cic.fr.
Christine Peña, la baisse des températures se poursuit.
Ah bah oui, et ce matin, c'est dans le sud-ouest qui fait le plus froid, figurez-vous, avec 4 degrés à peine à Auch, à Montauban, à Périgueux, à l'intérieur du sud-ouest, alors qu'il fait 9 à Strasbourg, à Alençon, 10 à Montpellier, à Biscarrosse également 10 degrés, à Rennes aussi, 11 du côté de Paris, de Lille et de Lyon, et cet après-midi, nous aurons des températures en baisse, c'est vrai, sur la moitié nord notamment, avec 11 à 15 degrés à peine pour la moitié nord, 14 dans la capitale, nous aurons de 15 à 17 pour le sud et un petit peu plus au sud de la Corse, c'est vrai, jusqu'à 19 du côté d'Ajaccio. Pour le temps, on a ces pluies qui traversent le pays aujourd'hui, on les retrouve entre le nord et l'ouest du pays, il va pleuvoir sur Paris fortement d'ailleurs ce matin, nous avons du vent également. Et puis petit à petit, ces pluies vont glisser vers l'est et le sud, et en donnant d'ailleurs, en arrivant en montagne, pas mal de neige sur tous les massifs, que ce soit sur les Pyrénées et sur les Alpes. Le petit répit, c'est pour très vite, puisqu'en Bretagne, le soleil revient dès cet après-midi et nous l'aurons demain sur tout le pays.
Merci Christine Peña. Je retiens, entre autres, qu'il ne fait pas hoche à hoche. Hommage à Aurélien Accard, mon prédécesseur sur le 5-6, exactement. Au programme de France Info, d'ici 6 heures, une quarantaine de gardes à vue simultanées, très grosse opération de police contre la toute-puissante DZ Mafia qui gangrène Marseille. On vous expliquera aussi une tentative d'évasion qui a été déjouée à la nouvelle prison ultra sécurisée des narcos à Vendin-le-Vieil. Et évidemment, à la une, la guerre au Proche-Orient, à la une du journal de 5h30. Bienvenue à tous.
France Info. William Guécosta.
140 soldats américains ont été blessés depuis le début de cette guerre, en plus de 7 militaires tués. C'est le bilan que vient de fournir le Pentagone, l'armée américaine, qui a d'ailleurs été de nouveau avisée par des projectiles ces dernières heures de l'Iran, notamment une base du Koweït. Le conflit qui en est à son 12e jour, avec une inquiétude qui croît autour du détroit d'Ormuz, contrôlé par les Iraniens, bloqué, là où transite normalement 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié consommé dans le monde. Et Donald Trump prévient Téhéran: si pour une raison quelconque des mines ont été posées et qu'elles ne sont pas retirées, les conséquences militaires seront sans précédent. Conséquences économiques aussi de cette crise autour du détroit d'Ormuz, le prix du pétrole donc, et donc des carburants également. Ils ont beaucoup augmenté ces prix depuis le début de la guerre en France, où les pêcheurs demandent de l'aide au gouvernement. Leur gasoil coûte quasiment deux fois plus cher qu'il y a 10 jours, et Édouard Marguier, certains travaillent même en ce moment à perte.
Le capitaine du Marilud et son équipage sont sortis en mer. Ludovic Leroux a fait le plein de son navire au port de La Turballe en Loire-Atlantique. Juste avant la guerre, il a payé 60 centimes le litre de gasoil marin. De quoi rentrer dans ses frais, mais depuis, le prix a flambé. Il affiche quasiment 1 euro.
Il y a beaucoup d'inquiétudes. Si on reste avec des prix de 1 euro, je pense qu'on va être obligé d'arrêter les bateaux.
Car il ne peut pas répercuter la hausse du prix du carburant sur le prix du poisson fixé par le marché.
On est un peu comme les agriculteurs, on est au début de la chaîne. On n'a pas la maîtrise sur le prix du poisson. Donc si on consomme plus de gasoil de ce qu'on gagne, ça ne sert à rien d'aller en mer.
Si les pêcheurs ne sortent plus, c'est tout un secteur qui risque de s'arrêter. C'est pourquoi Jérôme Jourdain, secrétaire général de l'Union des armateurs de pêche, il représente la majorité des débarquements de poissons en France, demande de l'aide au pouvoir public.
Comme ce qui avait été fait, notamment dans le cadre de la crise en Ukraine, pour permettre aux entreprises de pouvoir assurer leur activité, quand on sait qu'aujourd'hui, 70% des produits de la pêche proviennent de l'importation.
En 2022, les prix étaient similaires à ceux d'aujourd'hui. L'État avait accordé un coup de pouce de 35 centimes par litre de carburant marin.
Édouard Marguier, cet après-midi, une réunion est prévue à Matignon. Le Premier ministre Sébastien Lecornu reçoit les chefs de parti pour leur détailler la situation au Moyen-Orient. Il les reçoit avec le chef d'état-major ou encore des responsables du renseignement. C'est le bon côté des pluies très intenses qui ont touché la France le mois dernier. Les nappes phréatiques sont rechargées à un niveau très exceptionnel. Situation excédentaire dans les trois quarts du pays. Et puis ce soir, le PSG reçoit Chelsea au Parc des Princes. C'est du football, 8e de finale aller de la Ligue des Champions pour Paris qui ne va pas très bien en ce moment. Pénible leader de la Ligue 1, éliminé de la Coupe de France et qui ne va pas très bien non plus en Coupe d'Europe. La saison, elle est compliquée pour le PSG tenant du titre, Xavier Monferrand, et qui va donc être confronté aux londoniens de Chelsea et qui vont tenter de balayer les doutes.
Qu'elle semble loin, cette folle soirée de mai où le PSG soulevait enfin sa première Ligue des Champions. Moins d'un an après, Paris n'est plus aussi fringant sur la scène européenne. Tenu en échec par Bilbao et Newcastle, défait par le Sporting à Lisbonne, avant de sortir de justesse Monaco en barrage, le PSG a besoin de montrer qu'il est toujours le PSG, reconnaît son attaquant Bradley Barcola.
Je pense qu'on est toujours capable, hein. On l'a déjà démontré plus d'une fois. C'est très important de se rassurer, surtout sur nos derniers matchs en Ligue des Champions. On a toujours faim, on se décourage pas.
Manque d'envie, lassitude ou usure, tout le monde a un avis sur la crise de confiance que traverse Paris. En tout cas, ça ne perturbe pas Luis Enrique, l'entraîneur espagnol du PSG.
Je ne suis jamais préoccupé du bruit et de quel type de bruit il y a autour de l'équipe, parce que s'il y a des bons résultats, c'est beaucoup d'optimisme, et s'il y a des mauvais résultats, il y a des pessimismes. On est habitué à gérer ça.
Mais face aux Londoniens ce soir, Paris ne pourra pas se réfugier derrière la fatigue. Chelsea est l'équipe européenne qui a le plus joué depuis le 1er juillet 2024. 109 matchs, soit 4 de plus que le Paris Saint-Germain.
Merci Xavier Monferrand. On suivra ce match ce soir à 21h sur France Info. Il est 5h34.
France Info. 5h-6h. William Gecosta.
Revenons à ce très vaste coup de filet des gendarmes. 42 personnes interpellées en ce début de semaine. Opération Octopus, comme la pieuvre en anglais, métaphore des tentacules de la DZ Mafia, l'organisation criminelle marseillaise. Bonjour Pierre de Cossette.
Bonjour.
Service police-justice de France Info. Cette opération, elle est destinée à mettre un coup de massue à cette DZ Mafia et à ses chefs.
Oui, ceux que la justice considère comme les leaders de l'organisation criminelle connue sous les surnoms de La Brute, Gabi ou encore Mamine, ce dernier dont les autorités se demandent s'il n'est pas derrière l'assassinat de Mehdi Kessassi à l'automne dernier. Trois hommes déjà derrière les barreaux, ce qui aux yeux des enquêteurs ne les a pas toujours empêchés d'ailleurs de poursuivre leurs activités dans le trafic de stupéfiants, voire de commanditer des assassinats. La justice marseillaise tente de freiner l'ascension de la DZ Mafia dont les intérêts dépasse aujourd'hui largement les frontières des Bouches-du-Rhône. Opération de grande ampleur, donc 42 interpellations, dont l'avocat de plusieurs membres éminents de l'organisation.
Un avocat, Pierre, potentiellement impliqué dans un projet d'évasion.
Oui, depuis plusieurs semaines, la police judiciaire marseillaise est convaincue que Gabi, dont j'ai parlé un peu plus tôt, vu comme l'un des chefs de la DZ Mafia, envisage de s'évader. Il y a d'abord eu une drôle d'habitude à son arrivée l'été dernier à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, celle d'appeler son avocat, mais en pleine nuit. Vérification faite, la ligne basculait en réalité automatiquement vers des proches et en le mettant sur écoute, il est apparu récemment un possible projet d'évasion. Or ce mois-ci, le suspect n'est pas détenu à Vendin-le-Vieil, il a été transféré provisoirement dans une prison du sud-est de la France en vue de son procès dans une quinzaine de jours devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Procès pour un double assassinat avec à côté de lui dans le box le fameux Mamine. Hors de question donc d'attendre et avant-hier, les enquêteurs ont interpellé 4 suspects, possibles complices, sachant que Gabi et son avocat, eux, sont déjà en garde à vue dans l'autre dossier. Ils devront tout de même s'expliquer sur ce possible projet d'évasion.
Information de Pierre de Cossette du service police-justice de France Info. Israël frappe de nouveau le centre de Beyrouth ce matin. L'État hébreu continue ses bombardements au Liban contre le Hezbollah, organisation alliée de l'Iran. Des frappes aussi sur le sud du Liban où des habitants, des milliers d'habitants ont été déplacés. Exemple avec un village chrétien évacué par les casques bleus de l'ONU. La force de casques bleus de l'ONU dans le sud du Liban. 83 personnes au total ont été évacués de cette zone la plus dangereuse. Ils étaient confinés dans l'église d'Alma El Chab depuis plus d'une semaine et c'est donc à la fois un crève-cœur pour ces chrétiens et le signe que la situation se détériore dans la région, Étienne Monin.
Quand il gare sa Hyundai blanche à Beyrouth, Shadi Sadeh se passe les deux mains sur les yeux. C'est le maire du village, il a l'air épuisé.
On est parti les larmes aux yeux, on n'est pas des déplacés, on nous a déplacés.
Le convoi est parti vers 9h, Il y avait une cinquantaine de voitures. Elles étaient encadrées par les blindés des Nations Unies. Le maire dit que les villageois ont embarqué l'évangile et pas grand-chose de plus.
Ce qu'on a pris de l'église, c'est notre foi. On n'a rien pris de nos maisons. Quand tu perds ta dignité et ton honneur, tout le reste devient insignifiant.
Quelques minutes plus tard, le maire passe le porche de l'église Saint-Antoine. On voit des familles du village. Elles suivent une messe d'accompagnement pour un habitant tué 3 jours plus tôt par un tir de drone.
Sami, c'est un civil.
Nader Aid fait partie de ceux qui ont quitté le village ce matin.
Il n'a aucune arme. Il ne se sert de rien. Il est avec sa maison, sa famille. Il aime le village d'Al-Mashab. Et il est mort à Al-Mashab parce qu'il aime le village. Il n'a rien fait de mal, Sami. Il n'a rien fait de mal. Il était en train de s'occuper de son potager. Il était en train d'arroser. Quand il est mort, il avait encore le tuyau entre les mains.
Pour tenir, les derniers habitants se sont calfeutrés dans le sous-sol de l'église. Il y avait au moins 9 enfants et du ravitaillement.
On avait tous des matelas, des couvertures, des oreillers. On avait tout. Les forces italiennes de l'ONU venaient nous voir. Ils nous ont amené du fromage, ils nous ont amené de la nourriture, du pain, de l'eau et tout ce dont nous avions besoin pour tenir.
Mais samedi, un tir est tombé à côté de la camionnette de la police. Dimanche, Sami, le vieil homme de 70 ans, est mort devant son potager. Lundi, l'armée libanaise a ordonné l'évacuation. Eli Brahoui appartient à la communauté.
On avait eu des assurances qu'on était en sécurité si on restait ensemble, en groupe, sans bouger. Mais là, ni l'église, ni l'armée libanaise, ni l'ONU, personne ne nous a donné de garantie ou de promesse. Donc là, c'est soit votre vie, soit votre maison. Je ne veux perdre ni l'un ni l'autre, mais je dois perdre quelque chose. Évidemment, je ne vais pas perdre la vie, je vais perdre ma maison.
Les habitants pensaient qu'ils seraient protégés par leur statut de chrétien. En 2024, 200 maisons environ ont été détruites ou vandalisées.
Un reportage signé Étienne Monin et Martin Troadec aux côtés de ces déplacés chrétiens. Il y a au total près de 700 000 personnes qui ont été déplacées au Liban depuis une dizaine de jours face à ces frappes israéliennes, selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Pour les aider, les ONG se mobilisent comme Action contre la faim. Sonia Ben Salem est l'une de ses responsables au Liban.
C'est vrai que la situation aujourd'hui est catastrophique. On pourrait vraiment la comparer à la situation de 2024, si ce n'est que le fait que les personnes déplacées aujourd'hui ont été déplacées parfois plusieurs fois et ont aussi utilisé tous les moyens qu'ils avaient auparavant pour pouvoir survivre à ce déplacement. Aujourd'hui, c'est vrai que ce nombre de déplacés pour nous, on s'attend à beaucoup plus et potentiellement même dépasser le million. Comme lors de l'escalade de 2024.
Dans quelles conditions ces personnes se déplacent? Elles laissent tout en partant? Elles n'ont plus rien? Quelle est l'urgence aujourd'hui? Même si l'aide humanitaire, on le sait, arrive, mais est-ce qu'elle est suffisante?
Tout à fait, on parle de personnes qui se déplacent vraiment subitement, dès l'arrivée des instructions. Nous avons pu observer aussi des familles qui n'ont pas eu la possibilité de prendre ne serait-ce qu'un manteau, sachant qu'aujourd'hui il fait plus ou moins froid au Liban, en tout cas pour les personnes qui vivent ou qui dorment dans leur voiture, qui dorment dans les passages des autoroutes. Et même aujourd'hui, on a pu voir la plage de Beyrouth remplie de tentes et de personnes qui dorment. C'est vrai que l'aide humanitaire aujourd'hui, elle est plus limitée que dans les années précédentes, en 2024, étant donné du fait de la réduction des moyens qui ont été aujourd'hui aux mains des organisations humanitaires, mais aussi des municipalités et d'autres acteurs de la société civile. Et donc, ces familles se retrouvent parfois dans des abris qui sont délabrés, qui sont complètement non équipés. Et ne serait-ce qu'une bouteille d'eau, aujourd'hui, quand nous distribuons de l'eau, une bouteille d'eau, cela fait une différence énorme.
Sonia Ben Salem, responsable de plaidoyer à Action contre la faim au Liban, qui répondait sur France Info à Julien Langlais. Les frappes, elles sont donc menées contre le Hezbollah au Liban par Israël, État hébreu qui frappe également l'Iran aux côtés des États-Unis. Téhéran, de son côté, continue de bombarder une partie des pays du Golfe. Encore une salve de drones et de missiles cette nuit lancée contre les Émirats arabes unis, dont Dubaï, dont l'image était cornée depuis une dizaine de jours. C'était jusqu'à maintenant censé être un havre de paix au cœur du Moyen-Orient. Et les autorités sur place, Isabelle Labéry, continuent à tout faire pour minimiser cette guerre.
Cette guerre doit être indolore et invisible.
Don't boast any videos about
interdiction de photographier, de filmer et de partager la moindre image sur les réseaux. Sanctions jusqu'à 50 000 euros d'amende et 2 ans de prison.
Les Émirats arabes unis sont clairement un régime autoritaire.
Rada Stirling, avocate, a fondé l'association Détenus à Dubaï pour aider les expatriés victimes d'incarcérations abusives.
Des étrangers ont été arrêtés pour des communications privées ou parce qu'ils avaient laissé de mauvaises critiques sur des hôtels ou des agences de location de voitures. N'importe quel citoyen ordinaire court le risque d'être enfermé pour plusieurs années. C'est effrayant.
Les Émiratis, eux, semblent approuver, comme Fatima, jeune ingénieure au visage encadré d'un voile noir.
Peut-être que les gens trouvent ça bizarre, mais nous, on n'a pas l'impression d'être obligés d'obéir aux règles. Peut-être parce qu'ici, on est loyaux vis-à-vis de notre gouvernement et de notre président. On croit ce qu'ils disent. On a confiance. Avec eux, on est en sécurité.
Il y a même une expression pour ça, qui veut dire « n'y pensez pas, laissez-nous faire ». Le président la répète souvent.
Isabelle Labéry et Gilles Gallinaro à Dubaï pour France Info. Le Golfe en pleine guerre, le détroit d'Ormuz également bloqué. La conséquence principale en France, eh bien, c'est le prix du carburant qui augmente. Nous serons dans une minute avec des infirmiers, des chefs d'entreprise ou encore des routiers qui sont très préoccupés.
PSG Chelsea, 8e de finale aller de la Ligue des Champions, c'est ce soir sur France Info.
Bonjour, c'est Nicolas Perronnet. Le Paris Saint-Germain peut-il conserver sa couronne ? La nouvelle aventure des champions d'Europe en titre passe par le Parc des Princes pour le premier acte face aux Londoniens. Je vous retrouve avec Xavier Monferrand ce soir pour vivre cette rencontre.
Paris Saint-Germain Chelsea, ce soir en direct dès 21h sur France Info.
Six heures moins le quart, l'heure de l'info en une minute avec Philippine Thibaudot. Et à la une, un incendie mortel en Suisse dans un autocar hier soir.
Au moins 6 personnes sont mortes, 5 ont été blessées. Ce bus régional s'est embrasé dans le canton de Fribourg. La piste d'un acte volontaire est privilégiée, une enquête est ouverte. Il s'appelle La Brute, Gabi, Mamine, 42 personnes en tout interpellées en France en début de semaine. Membre de la DZN Mafia, organisation criminelle marseillaise. Des suspects également arrêtés pour certains pour avoir potentiellement organisé un projet d'évasion pour l'un de leurs chefs en prison. Environ 140 militaires américains ont été blessés depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. C'est le bilan donné par le Pentagone. Là encore cette nuit, des frappes ont retenti en Arabie Saoudite, au Liban, en Israël ou encore en Iran. En France, des tables perdent des étoiles. Le Michelin a annoncé ses rétrogradations avant le palmarès dévoilé lundi, dont l'institution parisienne L'Ambroisie qui passe de 3 à 2 étoiles. Et puis aux Jeux Paralympiques d'hiver, un seul Français en lice aujourd'hui, Karl Tabouret, au paraski de fond individuel. Ça se passe à 11h35. La France qui est 6e du classement.
France Info.
Le choix de France Info nous emmène ce matin à la pompe avec vous, Yvan Planteil. Bonjour Yvan.
Bonjour à tous.
Vous vous êtes rendu dans l'Oise pour rencontrer ceux qui subissent la hausse des prix du carburant en raison de la guerre au Moyen-Orient. Et on commence avec les stations elles-mêmes.
Alors, on est sur la Rocade de Beauvais et c'est la 4e station-service que je vois. Le diesel est ici à 2,11€.
Votre prénom, c'est ?
Ah, je dirais pas mon prénom.
On se passera du prénom. Ce quinquagénaire qui attend pour se servir enrage dans sa camionnette blanche. Il parcourt une petite centaine de kilomètres par jour avec son véhicule de fonction.
Bah, c'est inadmissible. Surtout qu'on a des réserves de pétrole et que ça augmente tout de suite dès le premier jour d'une invasion. Moi, je trouve ça inadmissible.
Ouais, je vous sens assez...
Moi, ça me dégoûte. Moi, là, c'est ma société, mais ça a un coût sur tout le reste, quoi. Et sur moi, sur mes véhicules personnels, ça a un coût et c'est inadmissible.
Bon, le patron de la station-service, visiblement à cran, m'invite à partir. C'est pas le premier, d'ailleurs. Donc, direction Ferrières. C'est une commune à 40 km d'ici, dans une station-service indépendante. Elle est installée au milieu des éoliennes et des champs. Et là aussi, le diesel est à 2€.
Les cuves, elles sont enterrées, là. Il y a 3 cuves.
Et elles sont à quel niveau, là, justement ?
gasoil zéro. On a tout vidé.
La propriétaire Catherine Mazan raconte que le ton monte avec ses clients ces derniers jours.
En fait, ils appellent pour avoir un prix, sauf qu'on ne leur a pas donné de prix. Et là, ils partent en vrille parce qu'ils veulent un prix. Donc on leur a dit, donc on les a mis sur une liste d'attente. Et quand on avait les prix, on les rappelait, dire écoutez, tel prix, vous prenez pas, vous prenez moins. Bon, bah là, depuis le début de semaine, on prend pas.
Ici, dans l'Oise, 17 stations-service sont à court d'au moins un carburant et 3 uniquement à Beauvais. Alors, eh bien, je refais le chemin inverse. Parce qu'Alexandrine, cette infirmière, m'a donné rendez-vous dans une boulangerie près d'un garage automobile.
Je me suis fait rentrer dedans, on m'a refusé une priorité. Du coup, il faut que je dépose ma voiture au garage sur mes jours de repos.
Infirmière à domicile, je précise. Elle réfléchit à tout pour consommer le moins possible.
J'oscille parfois, je monte jusqu'à 150 km dans ma journée, 70 passages par jour, parce qu'il y a des patients que je vais voir 3 fois par jour. Donc en fait, je pose ma voiture et puis je vais marcher pour aller faire les autres patients, parce que je ne peux plus me permettre, comme avant, d'arranger un patient parce qu'il veut aller faire ses courses, parce que ceci, parce que cela.
Elle fait les comptes tous les mois avec son mari, et le carburant, tenez-vous bien, arrive en premier dans leur poste de dépense.
Je suis à peu près entre 200-250 euros à peu près d'essence par mois minimum. Et mon conjoint, lui, il est artisan, il a son compte, donc il a un camion, donc lui, il est au diesel. Donc c'est un budget essence qui est facilement à 500 euros là, avec l'augmentation du carburant.
Et imaginez un peu à l'échelle d'une société comme celle de Jawed, ce patron d'une entreprise de taxi.
Quand je roule, c'est un plein presque tous les jours.
Ça, c'est pour les 3 véhicules. Ils transportent tous des malades de l'hôpital d'Amiens jusqu'à Beauvais.
Il faut qu'on travaille plus, il faut optimiser les trajets. On essaie de faire le moins possible de retour à vide. Les gens, ils attendent plus longtemps, on n'a pas le choix. De toute façon, c'est comme ça. Ouais.
Et même le PDG d'un groupe de transport de marchandises à Beauvais m'expliquait, sous couvert d'anonymat, qu'il va arrêter de livrer à l'international le temps que la situation se calme. Et qu'en est-il des transports en commun? Justement, l'agglomération du Beauvaisis pourrait elle aussi subir cette situation, mais elle n'a plus aucun bus 100% thermique. Et au contraire, elle propose une solution à ses habitants, un service de covoiturage très sollicité quand les prix flambent. Pierre Tachon est le directeur des mobilités.
En fait, au moment de la crise en Ukraine, le nombre d'adhérents et de covoitureurs a été multiplié par 3. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un habitant du territoire sur 3 qui est inscrit sur l'application et on a en moyenne à peu près 3000 habitants qui, tous les mois, covoiturent activement. Et là, on suppose que effectivement, le contexte actuel fera que les inscriptions vont encore augmenter.
Les passagers ne paient rien et les conducteurs sont dédommagés à la course par l'aglo entre 60 et 70 euros par mois. Et j'ai calculé pour la plupart des travailleurs qui font ces trajets, cela compense à quelques euros près la hausse récente du carburant.
Le choix de France Info signé Yvan Planteil. Alors pour l'heure, le gouvernement n'évoque aucune aide pour faire face à ces prix du carburant qui augmentent. Pas de baisse prévue non plus de la fiscalité. La CGT, elle, en revanche, réclame d'encadrer le prix de l'essence et du gasoil. Éric Cellini, le coordinateur syndical CGT chez Total Énergie.
Clairement, il faut à la fois bloquer les prix et faire baisser de façon drastique les prix à la pompe, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, les marchands de carburant et les producteurs profitent de l'aubaine de ce qui se passe au Moyen-Orient pour effectivement faire des marges supplémentaires. Il n'y a aucune raison aujourd'hui pour que le prix du litre soit à 2 euros. Hein. Il est fabriqué, ça coûte 60 centimes à la fabrication. On rajoute les taxes, on arrive difficilement à 1,40, 1,50 et encore, avec encore des marges pour les entreprises pétrolières. Donc clairement, il faut bloquer les prix et baisser les taxes.
Il y a urgence, selon vous, les conséquences pourraient être graves pour les Français?
Clairement, sur le pouvoir d'achat des Français, ils doivent déjà se serrer la ceinture compte tenu de l'augmentation des prix des produits de première nécessité qu'ils ont subi depuis quelques années. Et donc, en plus, si on vient leur imposer des augmentations de prix de carburant pour leurs déplacements quotidiens, parce qu'ils en ont besoin, ils ont besoin de leur véhicule pour aller au travail, pour aller emmener leurs enfants à l'école ou pour leurs loisirs, je suis désolé, mais oui, effectivement, il va y avoir des conséquences importantes et ils vont être obligés, une fois de plus, de faire les choix. Et donc, c'est encore les Français qui vont en pâtir.
Donc, vous réclamez l'application de cette mesure le plus rapidement possible?
Ah ben oui. Il faut que d'urgence, le gouvernement prenne des mesures pour à la fois limiter le prix, et pas 1,99 comme comme certaines entreprises le font.
Ça, c'est Total qui fait ça.
Exactement. Et donc, limiter le prix bien plus bas et puis diminuer les taxes. Le gouvernement dit ça coûterait des sous. Non, c'est aujourd'hui qu'il engrange plus de taxes qu'auparavant, avant le début des conflits au Moyen-Orient.
Et les entreprises ont aussi leur part de responsabilité.
Ah ben, les entreprises, oui, parce qu'aujourd'hui, si le prix du carburant a augmenté, c'est directement lié aux entreprises pétrolières et aux distributeurs de carburant. Oui, là, c'est clair, l'État n'y est pour rien. Mais mécaniquement parlant, il va engranger plus d'argent.
Le coordinateur syndical CGT chez Total Énergie, Éric Cellini, qui répondait sur France Info à Julien Langlais. Le groupe Muse va-t-il bientôt revenir avec un nouvel album 4 ans après le précédent? Philippine Thibaudot a mené l'enquête. Ce sera la playlist de France Info juste après l'actu écho avec Emmanuel Cuny. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec le Crédit Coopératif. Banque engagée à vos côtés pour un monde plus durable et inclusif. Crédit Coopératif, une autre banque est possible.
Le constructeur automobile allemand Volkswagen va licencier en masse d'ici 2030.
Oui, le géant du secteur en Europe va en effet poursuivre ses réductions de coûts avec pas moins de 50 000 suppressions d'emplois d'ici la fin de la décennie. Vous avez bien entendu, 50 000 suppressions de postes. L'objectif est de renforcer les marges bénéficiaires et investir dans les nouvelles technologies propres. Après sa pire année depuis le Dieselgate en 2025, l'an dernier en effet, Volkswagen a vu ses bénéfices chuter de 53% à 8,9 milliards d'euros. Les suppressions de postes programmées en Allemagne d'ici 4 ans toucheront également les marques de luxe filiales du groupe, dont Audi et Porsche.
Autre marque de voiture, Tesla, et Elon Musk, son patron, qui arrive largement en tête, Emmanuel, des personnes les plus riches au monde.
Oui, actionnaire de référence du constructeur de voitures électriques Tesla, mais aussi de SpaceX ou encore du réseau social X, Elon Musk est classé premier par le magazine Forbes, qui estime sa fortune à 839 milliards de dollars, ça fait environ 720 milliards d'euros, contre 342 milliards de dollars il y a un an. C'est plus du triple du patrimoine des deux autres membres du trio de tête, dont le cofondateur de Google, Larry Page, qui lui émerge à 257 milliards de dollars. Le français Bernard Arnault arrive en 7e position avec une fortune de 171 milliards d'euros, de l'argent essentiellement investi dans le groupe LVMH qu'il dirige.
Boeing a connu un excellent mois de février en termes de ventes.
Oui, le constructeur aéronautique américain a livré aux compagnies clientes dans le monde le mois dernier 51 appareils, le niveau le plus élevé pour le deuxième mois de l'année depuis 2017. Son grand concurrent, Airbus, l'européen donc, a pour sa part livré 35 avions le mois dernier.
Emmanuel, on vous retrouve, c'est toujours très précis, à 6h23 pour votre brief éco.
Et on fera un gros plan ce matin sur un ingénieur informaticien français. Il s'appelle Yann Lequin, spécialiste en intelligence artificielle. Il revient en France après avoir claqué la porte de Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp. Il en était l'éminence grise de l'IA et il revient en France pour y fonder sa propre entreprise. Il vient même de lever 1 milliard de dollars sur les marchés.
Beaucoup de milliards votre réveil de l'écho ce matin. Merci beaucoup Emmanuel Cuny. Il est 5h56 et c'est l'heure donc de votre playlist du jour, Philippine Thibaudot, avec le groupe de rock Muse qui travaille depuis des années sur son futur album et les fans vont pouvoir se réjouir. Le retour est imminent.
Et le fait savoir avec une vidéo pour le moins intrigante publiée hier sur ses réseaux sociaux intitulée « Be with you » en français « Être avec toi ». It seems my light's been swallowed up. I've used up every ounce of love. Je vous décris la scène. Une église, il fait sombre. Matt Bellamy, le chanteur star du groupe, est à l'orgue. Seule la lumière rouge des vitraux éclaire son visage. Quelques secondes et ensuite des lettres, des chiffres apparaissent très rapidement avant un noir total. J'ai dû y regarder à deux fois et voilà ce que j'ai noté. 6 E Q U J 5. Alors vous allez me dire...
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est un message codé. Le groupe en est très coutumier. Sur les réseaux de fans, tout le monde s'affole. Et ce qu'il en ressort, et là il va falloir me suivre, le code ferait référence à un signal radio détecté depuis l'espace le 15 août 1977. Plein de théories extraterrestres à ce sujet. Mais donc pour les fans, cela voudrait dire que le prochain album sortirait le 15 août prochain ou serait au moins annoncé à cette date.
Donc beaucoup de fantasmes, Philippe. Philippines autour de ce groupe. Il faut dire que son retour est très attendu par ses fans. Hein.
Oui, le groupe égrène des indices par-ci, par-là.
We're working on a new album right now and we've got loads of great new music coming for you in the new year.
Un message sur X, et vous venez de l'entendre de Matt Bellamy qui parle d'un album en préparation pour 2026. Des photos du groupe en studio sur Instagram, des vidéos mystérieuses. Il faut dire que depuis leur dernier album, We Love the People, sorti en 2022, plus rien. Si ce n'est un titre l'an passé, Unraveling, que beaucoup pensaient comme le premier single d'un dixième album. Mais ensuite, plus rien encore. Silence radio en février. Annulation de concerts en Afrique du Sud, en Inde, aux Émirats Arabes Unis, au point d'en inquiéter les fans. Live Nation, organisateur des concerts, parle de circonstances indépendantes de leur volonté. Alors à quand le retour de Muse ? Aucune date officielle pour l'instant, mais il ne saurait tarder.
Merci beaucoup Philippine Thibaudeau pour la playlist de France Info et le retour de Christine Peña. C'est dans 8 secondes.
France Info Météo, avec CIC, la facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur cic.fr.
7, 8.
Ah, vous voyez.
Non, mais je comptais.
Tout pile. Christine, la journée est de nouveau bien arrosée aujourd'hui.
Mais oui, on a cette perturbation entrée hier par la Bretagne qui avance vers l'intérieur du pays en donnant de bonnes pluies. Avant d'être arrosée d'ailleurs, votre ciel est de plus en plus gris, menaçant sur l'est et le sud-est du pays. Alors, à l'est du Rhône, oui, c'est ça. Vous avez entre le Rhône en fait et les Alpes, vous avez quand même pas mal de lumière pour ce matin. Mais attention, les nuages arrivent après le passage des pluies ce matin en Bretagne, cet après-midi en Normandie, Pays de la Loire jusqu'à Paris. Là, les pluies ne deviennent intermittentes et le soleil arrive à s'imposer progressivement. Ce temps calme ensoleillé, d'ailleurs, finira par s'imposer demain jeudi sur toutes les régions. Ça sera vraiment une journée de trêve avant le retour de la pluie dès vendredi.
Merci beaucoup, Christine Peña. L'info et sa muse, c'est Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme.
On s'amuse toujours avec vous. Merci William Gay-Costa, mais on s'informe aussi bien évidemment puisque vous allez revenir tout à l'heure pour le journal de 7h. Je suis heureux d'être entouré comme tous les jours par Christine Peña, que je salue, Philippine Thibaudeau pour les
Jérôme.
Infos notamment, et Sarah Ders qui termine de préparer son journal de 6h. Voilà. Nous sommes le mercredi 11 mars. Bienvenue à tous. Bon réveil sur France Info 6h.
France Info, 6h-9h, Jérôme Chapuis.